Bégin. Hello!
Boulevard.
Oh, Carlito!
102-1.
Il est 8h17 à Boulevard Against le matin. Dans les prochaines minutes, on va avoir une discussion qui risque d'être pour le moins intéressante avec Josh Sinoski. Il est chroniqueur politique québécoise. Puis vous l'avez peut-être vu passer dans différents médias plus tôt cette semaine. On va se jaser d'une bière brassée à partir d'eau usée. Ouais. C'est la bière, la Revival de l'entreprise québécoise H2O Innovation qui va être brassée, pas en grande quantité. En fait, ce qu'on peut lire entre autres dans la presse, c'est qu'on veut s'en servir de cette bière-là brassée à partir d'eau usée. D'abord et avant tout comme un véhicule pour conscientiser les gens au gaspillage de l'eau potable. Fait que j'imagine que la bière va être buvable. Sinon, ben, on passe un peu à côté de la traque. Mais on va avoir la discussion dans les prochaines minutes à savoir, est-ce que c'est une bonne façon de conscientiser la population, de dire, vous gaspillez de l'eau, on va vous montrer ce qu'on peut faire avec de l'eau réutilisée, des eaux usées, puis on va faire de la bière. À partir de ça, moi, j'aurais aucun problème à goûter à cette bière-là. Je sais pas pour vous.
Ben, je veux dire, vraiment, si la bière est de bon goût, si la bière est de qualité, si, je veux dire, tant mieux. Puis tant mieux pour... Mais c'est quand même intriguant. Là. Est-ce que ça goûte différent d'une bière habituelle? De base, moi, je suis pas un gros fan de bière. Là, fait que je sais pas à quel point une bière, en plus, avec de l'eau usée, ça m'attire. Mais non, c'est ça. C'est sûr que je sais pas si le goût est intriguant ou si on a un goût classique. Là. C'est quand même...
Mais en même temps, la bière s'est rendue que ça peut tellement goûter absolument n'importe quoi que d'avoir une bière aux osées, ça va peut-être goûter la bonne IPA. Fait qu'on on va voir ce que ça va donner. En attendant, on a Josh Sinoski au bout du fil, il est chroniqueur politique québécoise sur la bière brassée. En fait, politique québécoise. Ça serait très précis d'être un chroniqueur
sur la bière.
Sur la bière brassée à partir d'eau usée. Chroniqueur politique québécoise et on va jaser.
J'espère que cette spécialité-là n'existera jamais.
Si on en arrive là, j'ai bien peur d'où on va en être rendu un peu partout dans la société. Josh, ça va bien?
Oui, salut à vous deux.
J'ai fait l'introduction, j'ai mentionné qu'on allait créer la bière, la Revival de l'entreprise québécoise H2O Innovation. Puis ce qu'on nous dit, c'est t'sais, ça va pas devenir une bière comme la Coors qu'on va vendre en énorme quantité. Puis on veut s'en servir, puis c'est ce que je disais dans la presse, comme je le disais, comme un véhicule pour conscientiser les gens au gaspillage de l'eau potable. Comment on voit ça du côté de Josh Sinoski?
Ben écoute, moi, c'est que j'ai vu beaucoup de choses à mentionner par rapport à ça. Je vais faire beaucoup de liens. Premièrement, on va commencer par dire qu'au Québec, là, on a 3% de toute l'eau douce renouvelable de la planète. Là. On va s'entendre, on n'est pas aux Émirats arabes unis où on est en plein désert et que ça prend de la désalination de l'eau de la mer et tout ça. Là. On a au-dessus d'un million de lacs et de rivières. Puis ce qui m'a le plus choqué hier soir, je suis en train de fouiller tout ça, c'est que ce que je redoutais est effectivement arrivé. Le gouvernement, la Ville de Québec, ils ont mis de l'argent, ils ont mis des subventions. En partant, quand j'ai vu une histoire de bière pour conscientiser, pour sensibiliser les gens, et que ce n'était pas un projet à long terme, je me dis tout de suite qu'il y a un guise sous roche. Parce que si c'est un projet viable d'un point de vue économique, puis qu'il y avait vraiment une demande pour ça, le gouvernement n'a pas besoin de mettre d'argent. Mais effectivement, la Ville de Québec, ils ont mis 1 million de dollars il y a un peu moins de 2 ans pour faire une étude de faisabilité. Puis là, on parle déjà d'un projet de 150 millions pour devenir les champions du recyclage d'eau d'égout. Ça va bien, là, au Québec, là. Puis, tu sais... Il faut qu'on se comprenne aussi. Je ne suis pas contre d'améliorer nos habitudes. Je suis pas contre le fait de recycler le compost. Moi, je le fais presque religieusement. Je veux dire, je suis pour qu'on essaye d'améliorer notre qualité de vie, d'améliorer nos ressources, d'améliorer l'efficacité de comment qu'on consomme, de ne pas gaspiller pour le fun. Mais le problème, ce qui m'a frustré en lisant cet article-là, c'est que il y a un pattern ici où ce que les gouvernements, au lieu de régler leurs propres problèmes, mettent systématiquement la faute sur le citoyen ou l'entrepreneur pour se dédouaner de leur responsabilité de régler les vrais problèmes. Dans cet article-là, il mentionne clairement que le problème, c'est pas qu'on manque d'eau. Le problème, c'est que nos aqueducs, nos égouts, nos usines de traitement sont en fin de vie. Ça marche plus, ça pète de partout. Fait que plutôt que les gouvernements, les villes, de régler ces problèmes-là qui sont à la source, ils vont mettre ça, ils vont essayer de mettre le blâme ou le fardeau de responsabilité sur le citoyen en disant, ben, c'est à vous autres là, de faire attention, d'éviter le gaspillage, de faire attention, on va restreindre vos libertés et vos droits pour le bien commun. Et ça, là, c'est, on passe à côté de la traque complètement parce que le problème, c'est le gouvernement qui est à la source du problème en ce qui me concerne. Oui, le citoyen peut faire sa part, mais avant tout, quand le gouvernement fait pas sa job, on commence à mauvaise place. Puis le lien que je veux faire, c'est que ce pattern-là, on le voit partout au Québec. Puis je dis au Québec, mais on peut le voir à grandeur du monde. Regardons Montréal. Quand il y a des inondations, là, puis que là, les tuyaux d'égout, ça pète de partout, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est changement climatique. Dernièrement, ils nous disaient au début de l'été, quand il y avait des fins de semaine qui pleuvaient, ils disaient, ben, c'est parce que le monde sont sortis trop souvent avec leur char. Fait que là, c'est ça qui fait qu'il y a des grosses pluies. C'est complètement ridicule. Alors que le problème, c'est la mauvaise gestion des villes et des gouvernements. Mais là, ils vont nous mettre ça sur le dos des changements climatiques, puis les gens, vous ne faites pas attention. Fait que là, on va mettre plus de vélos, puis là, on va essayer de mettre fin aux véhicules thermiques pour régler le problème. Un autre exemple qu'on entend ces derniers jours dans les provinces maritimes, c'est les forêts qui brûlent. On dit c'est le climat et tout ça. Moi, je suis déjà allé faire du hiking dans l'Ouest canadien. Puis, j'ai marché dans les forêts là, où le bois, là, il était mort, il était sec, sec, sec. Et quand il y a des gros feux de forêt qui arrivent, là, je m'excuse, c'est pas le vrai problème, c'est pas les changements climatiques. C'est que ces forêts-là, plutôt que de faire des brûlages contrôlés comme ça peut se faire ailleurs, ils laissent ça aller, puis à un moment donné, le feu pogne là-dedans, puis c'est terminé. Un autre exemple, c'est la COVID. La COVID, on a eu un bel exemple où ce que, oui, il y avait un virus, c'est évident. Mais le gouvernement a tellement mis le focus sur ça et sur les gens qui faisaient pas attention, mettez vos masques, vous êtes des COVID-idiots, etc. Alors que le problème, c'est que le système de santé, il est en lambeaux. Puis dernièrement, un autre exemple que j'ai lu ce matin en me levant, qui est encore pire à mon avis, c'est l'Office québécois de la langue française qui s'attaque au pub Burgundy Lion à Montréal. Ça fait 17 ans que l'enseigne est là. Puis là, ils viennent dire que Burgundy, c'est pas français. Puis là, ils disent même là, dans l'article, que dans les courriels que le local a envoyé aux propriétaires, qu'ils veulent franciser les noms historiques des régions de whisky. Puis pendant ce temps-là, ben, tu as des jeunes qui sortent du secondaire, qui sont même pas capables d'écrire comme du monde. Tu as des nouveaux arrivants qui passent à travers sans francisation sérieuse. Mais non, c'est le propriétaire de pub qu'on va aller écœurer. Et je lisais aussi ce matin Olivier Primo sur X qui disait que lui, il est à Montréal, puis il dit qu'il va souvent dans des cafés qui ont des beaux petits noms cute en français, mais à l'intérieur, il dit qu'il n'y a personne qui parle le français. Même selon l'OQLF en 2023, près de 50% des commerçants à Montréal, ils servaient leur clientèle en anglais au premier contact. Mais ça, l'OQLF, on les entend pas pantoute. Fait que vous voyez un peu où c'est que j'en viens avec ça. Je trouve qu'on a un problème de déresponsabilisation au Québec où ce que c'est toujours facile de mettre la faute sur le propriétaire d'entreprise et sur le consommateur plutôt que le gouvernement regarde dans sa cour puis il règle ses problèmes.
Justement, en parlant des problèmes qu'on doit régler, c'est la gestion de nos infrastructures souterraines, l'eau, l'aqueduc, tu l'as mentionné en début de chronique. On voit encore aujourd'hui, là, on a une télé sur LCN dans le studio, pas de son, mais on voyait qu'à Longueuil, en ce moment, il y a des tuyaux d'eau qui ont lâché et là, il y a de l'eau à plus savoir quoi en faire dans les rues. Justement, ces infrastructures souterraines, toutes les villes sont confrontées à ça, le Montréal, Québec, Longueuil, toutes les grandes villes, mais les plus petites municipalités aussi. Parle-nous donc du travail qu'il y a à faire sur les infrastructures souterraines d'eau et d'égouts.
Ben, c'est évidemment un problème qu'il va falloir qu'on règle. Puis ce que je vois, puis moi, oui, je reste à Lévis, fait qu'il en parle justement à Lévis qu'on a un problème présentement parce que là, le développement se fait à grande échelle au niveau de l'immobilier, mais les infrastructures de l'aqueduc et tout ça ne suit pas. Le problème, c'est que c'est pas ce qui est le plus attrayant pour des gouvernements de se mettre à déterrer des tuyaux puis réparer. C'est bien plus facile de dire qu'on va investir justement dans une patente à gosse comme ça de filtration des eaux usées, puis ou des beaux projets qui permettent de couper des rubans plutôt que d'aller régler les problèmes en profondeur. On s'entend que c'est pas ça qui achète des votes. Sauf que les gouvernements, à un moment donné, il va falloir qu'ils arrêtent de penser à leurs prochaines élections, puis il va falloir qu'ils pensent au bien commun à long terme. Puis le bien commun à long terme, ça passe par des décisions difficiles, ça passe par des choix qui sont pas plus reluisants plus qu'il faut, mais c'est ça qui va assurer le bien commun à long terme.
Mais ce qui est dommage, puis vous l'avez mentionné, mais c'est qu'on gagne pas des élections avec ça. Puis pour ça, puis là, je veux pas mettre la faute sur la population comme ce que vous êtes en train de dénoncer, mais la population a quand même sa responsabilité dans... dans une certaine... Il doit y avoir une sensibilisation à comprendre que oui, c'est pas sexy d'investir dans les infrastructures, puis oui, ça donne pas nécessairement le goût de donner notre vote à un parti que ses promesses vont être d'investir dans les infrastructures, puis d'aller dans le pas sexy. Pour ça, je pense que la population a quand même une responsabilité à prendre.
Ah ben absolument, vous avez un excellent point. C'est pas juste, puis tu fais bien d'amener cette nuance-là parce que mon objectif, c'est pas juste de dire on va tirer à boulet rouge pour le fun sur le gouvernement. Je mentionne un aspect du problème, mais les gens aussi doivent peut-être être mieux se renseigner lorsqu'ils vont voter. Puis il faut effectivement que les gens, quand ils vont voter, qu'ils pensent à plus long terme. Puis même dans ce qu'on a parlé au niveau du recyclage, au niveau de la bonne utilisation de nos ressources, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire attention. Les gens, on doit apprendre. Il y en a vraiment des gens qui se font pas attention. Puis je crois que collectivement, on doit apprendre à s'améliorer de plus en plus. Mais effectivement, tu marques un excellent point. Les gens doivent réfléchir davantage lorsqu'ils vont voter. Tu sais, aller voter, à mon sens, à moi, les élections, c'est pas quelque chose de nécessairement sexy. C'est quelque chose de sérieux. Puis il faut penser à long terme. Il faut penser aussi aux prochaines générations. Puis il faut arrêter de juste penser à soi, à son confort à court terme.
Mais c'est difficile de le faire. Tu sais, je pense que n'importe qui, par nature humaine, quand on se rend aux urnes, puis on a tous nos valeurs, puis nos visions des choses, mais c'est sûr qu'il y a toujours un côté égoïste qui va ressortir. Tu sais, si tu es dans une certaine classe qui serait avantagé par des promesses de telle partie, ben c'est sûr que tu vas être probablement plus tenté de mettre ton petit crochet à côté du candidat de ce parti-là, alors que tu sais peut-être que, ouais, c'est peut-être pas le meilleur parti pour tout le monde, mais moi, ce qui vient offrir pour ma classe, que ce soit la classe un petit peu moins fortunée, que ce soit la classe moyenne, que ce soit la classe plus fortunée, moi, pour ma classe, ben c'est le meilleur. Fait que il y a cet exercice-là qui est difficile au moment d'aller voter, de dire, OK, je vais prendre la meilleure option pour la population en général, ou je vais prendre la meilleure option pour moi. Puis c'est normal de prendre la meilleure option pour soi-même. C'est normal de penser pour sa petite personne avant de penser au reste du monde. Mais c'est sûr que c'est un grand débat interne à avoir avec soi-même.
Ah ben absolument, absolument. Puis ça rejoint des chroniques que j'ai déjà écrites, notamment lors des élections fédérales, où ce que j'y disais, tu sais, moi, je suis un jeune, j'ai 32 ans. Mais il y en a qui sont un peu plus vieux. Puis moi, j'ai trois enfants, puis quand je vais voter, je pense à leur futur. Mais je crois que surtout les générations qui sont un petit peu plus vieilles, je crois que ce serait important quand on va voter, de penser aux générations futures. Puis des choses comme ça, non, effectivement, pour ceux qui sont plus âgés, c'est moins important pour eux autres. Mais pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, c'est très important. Puis je crois que c'est quelque chose que collectivement et individuellement, les gens, il faut qu'on commence à pas juste penser à son nombril, il faut qu'on pense au futur. Puis des projets de ce niveau-là, ben ça demande d'avoir une vision à long terme.
Josh Sinanski, merci beaucoup pour votre temps ce matin, bien intéressant.
Merci à vous deux.
Merci.
Bye bye. Fait que c'est ça, discussion à la base qui partait de cette bière brassée à partir d'eau usée, mais qui a amené vers une réflexion qui est pertinente, intéressante sur notre responsabilité au moment d'aller voter. Comme je disais, c'est facile, tu sais. Moi, mettons qu'on me dit qu'il y a un parti qui fait que pour les jeunes de moins de 25 ans, ben, il y a tel avantage. Je pourrais prendre un exemple, disons, super fictif où un parti nous promet 500$, mettons, là. mettons, qu'on jase 500$. Ben, c'est sûr, ça peut être tentant pour un parti qui dit m'a te mettre 500$ dans les poches. Mais il y a des réflexions à avoir plus loin que ça. Puis je pense que c'est à chacun d'entre nous d'avoir ces réflexions-là.
Oui, absolument. Puis la trame de fond de la chronique de Josh Sinanski qui vient de nous parler aujourd'hui, c'est aussi toute l'hypocrisie qu'il y a derrière ça. Mm-hmm. Où on tente de couper des rubans, on tente de bien paraître. Là, on dit qu'on veut sauver l'eau potable, sauver l'eau douce. On fait une grande exposition de notre haute vertu morale, tu sais, H2O innovation là, qui est derrière qui est derrière cette innovation, que je le dis entre guillemets, là, de recycler des eaux usées pour faire de la bière. On présente H2O innovation comme étant une entreprise québécoise. Moi, je vais aller un petit peu plus loin là, mais l'actionnariat derrière H2O innovation, c'est un actionnariat de contrôle américain. C'est un actionnaire de contrôle américain qui possède cette entreprise-là. Investissement Québec reste actionnaire avec une portion là, de 21%, mais il reste que l'actionnaire de contrôle, c'est une entreprise maintenant américaine et elle était cotée en bourse avant et maintenant c'est rendu une entreprise privée, c'est-à-dire qu'elle n'a plus l'obligation de se déshabiller 4 fois par année, l'entreprise, parce que quand tu es une entreprise cotée en bourse, tu dois faire des rapports trimestriels, tu dois faire des rapports annuels dans lesquels tu exposes tout, tes investissements, les salaires de tes hauts dirigeants, tout ça. Maintenant, c'est une entreprise privée. Plus l'obligation de se déshabiller 4 fois par année, plus l'obligation de reproduire un rapport annuel. Et on investit de l'argent au Québec dans cette entreprise-là. Alors, il y a toute cette hypocrisie-là aussi de ce sous-couvert là, de bonne vertu morale, bonne vertu environnementale. On dilapide des fonds publics dans des projets comme ça pour bien paraître. Ça donne bonne conscience. C'est pour ça que ça prend du monde pour gratter ça un peu, pour se rendre compte qu'on est beaucoup, 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 beaucoup dans l'image. Et quand on gratte, ça sent pas bon comme les eaux usées.
Il y a des questions à se poser. Certainement 8h34. Un petit tour des nouvelles au retour. Mais d'abord, Mumford & Sons avec Little Lion Man à Boulevard 102.1.